Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et vous écoutez France Culture. Nous sommes en direct sur France Culture et en public au Théâtre de la Ville pour les lectures de la première édition de l'Estival Albert Camus, un festival imaginé par la famille Camus avec les rencontres méditerranéennes Albert Camus, un festival, vous l'avez entendu, qui aurait dû se tenir ce week-end à Lourmarin, le village qui a accueilli l'écrivain en 1958. Comme tant d'autres festivals empêchés, annulés à cause de la crise du coronavirus, celui-ci n'a pas pu avoir lieu, il a dû se réinventer. Sandrine Trainer, directrice de France Culture, a alors proposé une déclinaison radiophonique de l'Estival Camus et Emmanuel de Marcimota, directeur de théâtre de la ville, s'est associé pour accueillir les lectures qui aurait dû se dérouler en plein air, au soleil, sur la terrasse du château de Lourmarin. Abdel Malik a ouvert le festival sur France Culture avec Adèle Vanrette hier matin. Nous le retrouvons maintenant dans quelques instants en direct et en public. Il va lire L'envers et l'endroit, un livre de jeunesse écrit par Albert Camus lorsqu'il avait 22 ans en 1935-1936. Un livre republié en 1958 avec une magnifique préface dans laquelle on peut lire « Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre », une phrase revendiquée par Camus une année avant sa mort accidentelle. Une nouvelle fois, Abdel Malik va donner corps et voix, c'est parfait, à l'œuvre de celui qu'il nomme son grand frère, son tuteur, celui qui lui a permis de pousser droit, comme il dit, et qui a écrit « Je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. La misère m'empêche de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. » Albert Camus est l'incarnation de l'espoir pour Abdel Malik. Il est aussi l'écrivain avec lequel il entretient un dialogue intime depuis qu'il l'a découvert au collège, auprès duquel il a appris la fidélité à ce que l'on est et qu'il a guidé sur le chemin de sa vie d'artiste. Pour vous, aujourd'hui, il a choisi de lire toute la préface de L'envers et l'endroit, écrite en 58 et quelques essais du livre, tout de suite en direct sur France Culture. Il est accompagné à la musique par Iso Diop et c'est une réalisation de Christophe Hoquet.
Les essais qui sont réunis dans ce volume ont été écrits en 1935 et 1936. J'avais alors 22 ans et publié un an après en Algérie un très petit nombre d'exemplaires. Cette édition est depuis longtemps introuvable et j'ai toujours refusé la réimpression de L'envers et l'endroit. Mon obstination n'a pas de raison mystérieuse. Je ne renie rien de ce qui est exprimé dans ces écrits, mais leur forme m'a toujours paru maladroite. Les préjugés que je nourris malgré moi sur l'art, je m'en expliquerai plus loin, m'ont empêché longtemps d'envisager leur réédition. Grande vanité apparemment, et qui laisserait supposer que mes autres écrits satisfont à toutes les exigences. Ai-je besoin de préciser qu'il n'en est rien ? Je suis seulement plus sensible aux maladresses de l'envers et l'endroit qu'à d'autres que je n'ignore pas. Comment l'expliquer sinon en reconnaissant que les premières intéressent et trahissent un peu le sujet qui me tient le plus à cœur? La question de sa valeur littéraire étant réglée, je puis avouer en effet que la valeur de témoignage de ce petit livre est pour moi considérable. Je dis bien pour moi, car c'est devant moi qu'il témoigne, c'est de moi qu'il exige une fidélité dont je suis seul à connaître la profondeur et les difficultés. Je voudrais essayer de dire pourquoi. Brice Parrain prétend souvent que ce petit livre contient ce que j'ai écrit de meilleur. Parrain se trompe. Je ne le dis pas connaissant sa loyauté, à cause de cette impatience qui vient à tout artiste devant ceux qui ont l'impertinence de préférer ce qu'il a été à ce qu'il est. Non, il se trompe parce qu'à 22 ans, sauf génie, on sait à peine écrire. Mais je comprends ce que Parrain, savant ennemi de l'art et philosophe de la compassion, veut dire. Il veut dire, et il a raison, qu'il y a plus de véritable amour dans ces pages maladroites que dans toutes celles qui ont suivi. Chaque artiste garde ainsi au fond de lui une source unique qui alimente pendant sa vie ce qu'il est et ce qu'il dit. Quand la source est tarie, on voit peu à peu l'œuvre se racornir, se fendiller. Ce sont les terres ingrates de l'art que le courant invisible n'irrigue plus. Le cheveu devenu rare et sec, l'artiste couvert de chaume et mûr pour le silence, ou les salons qui reviennent aux mêmes. Pour moi, je sais que ma source est dans l'envers et l'endroit, dans ce monde de pauvreté et de lumière où j'ai longtemps vécu et dont le souvenir me préserve encore de deux dangers contraires qui menacent tout artiste, le ressentiment et la satisfaction. La pauvreté, d'abord, n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Même mes révoltes ont été éclairées. Elles furent presque toujours, je crois pouvoir le dire sans tricher, des révoltes pour tous et pour que la vie de tous soit élevée dans la lumière. Il n'est pas sûr que mon cœur fût naturellement disposé à cette sorte d'amour, mais les circonstances m'ont aidé. Pour corriger une indifférence naturelle, je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. Changer la vie, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité. C'est ainsi sans doute que j'abordais cette carrière inconfortable où je suis, m'engageant avec innocence sur un fil d'équilibre où j'avance péniblement, sans être sûr d'atteindre le but. Autrement dit, je deviens un artiste s'il est vrai qu'il n'est pas d'art sans refus ni sans consentement. Dans tous les cas, la belle chaleur qui régnait sur mon enfance m'a privé de tout ressentiment. Je vivais dans la gêne, mais aussi dans une sorte de jouissance. Je me sentais des forces infinies. Il fallait seulement leur trouver un point d'application. Ce n'était pas la pauvreté qui faisait obstacle à ses forces. En Afrique, la mer et le soleil ne coûtent rien. L'obstacle était plutôt dans les préjugés ou la bêtise. J'avais là toutes les occasions de développer une castillanerie qui m'a fait bien du tort, que raille avec raison mon ami et mon maître Jean Grenier, et que j'ai essayé en vain de corriger jusqu'au moment où j'ai compris qu'il y avait aussi une fatalité des natures. Il valait mieux alors accepter son propre orgueil et tâcher de le faire servir plutôt que de se donner, comme dit Champfort, des principes plus forts que son caractère. Mais après m'être interrogé, je puis témoigner que parmi mes nombreuses faiblesses n'a jamais figuré le défaut le plus répandu parmi nous, je veux dire l'envie, véritable cancer des sociétés et des doctrines. Le mérite de cette heureuse immunité ne me revient pas. Je la dois au mien d'abord, qui manquait de presque tout et n'enviait à peu près rien. Par son seul silence, sa réserve, sa fierté naturelle et sobre, cette famille qui ne savait même pas lire m'a donné alors mes plus hautes leçons qui durent toujours. Et puis, j'étais moi-même trop occupé à sentir pour rêver d'autre chose. Encore maintenant, quand je vois la vie d'une grande fortune à Paris, il y a de la compassion dans l'éloignement qu'elle m'inspire souvent. On trouve dans le monde beaucoup d'injustices, mais il en est une dont on ne parle jamais, qui est celle du climat. De cette injustice-là, j'ai été longtemps, sans le savoir, un des profiteurs. J'entends d'ici les accusations de nos féroces philanthropes, s'ils me lisaient. Je veux faire passer les ouvriers pour riches et les bourgeois pour pauvres, afin de conserver plus longtemps l'heureuse servitude des uns et la puissance des autres. Non, ce n'est pas cela. Au contraire. Lorsque la pauvreté se conjugue avec cette vie sans ciel ni espoir, qu'en arrivant à l'âge d'homme, j'ai découvert dans les horribles faubourgs de nos villes, alors l'injustice dernière est la plus révoltante et consommée. Il faut tout faire, en effet, pour que ces hommes échappent à la double humiliation de la misère et de la laideur. Né pauvre dans un quartier ouvrier, je ne savais pourtant pas ce qu'était le vrai malheur avant de connaître nos banlieues froides. Même l'extrême misère arabe ne peut s'y comparer, sous la différence des ciels. Mais une fois qu'on a connu les faubourgs industriels, on se sent à jamais souillé, je crois, et responsable de leur existence. Ce que j'ai dit ne reste pas moins vrai. Je rencontre parfois des gens qui vivent au milieu de fortunes que je ne peux même pas imaginer. Il me faut cependant un effort pour comprendre qu'on puisse envier ces fortunes. Pendant 8 jours, il y a longtemps, j'ai vécu comblé des biens de ce monde. Nous dormions sans toit sur une plage, je me nourrissais de fruits et je passais la moitié de mes journées dans une eau déserte. J'ai appris à cette époque une vérité qui m'a toujours poussé à recevoir les signes du confort ou de l'installation avec ironie, impatience et quelquefois avec fureur. Bien que je vive maintenant sans le souci du lendemain, donc en privilégié, je ne sais pas posséder. Ce que j'ai et qui m'est toujours offert sans que je l'aie recherché, je ne puis rien en garder. Moins par prodigalité, il me semble, que par une autre sorte de parcimonie. Je suis avare de cette liberté qui disparaît dès que commence l'excès de bien. Le plus grand des luxes n'a jamais cessé de coïncider pour moi avec un certain dénuement. J'aime la maison nue des Arabes ou des Espagnols. Le lieu où je préfère vivre et travailler est chose plus rare, où il me serait égal de mourir, est la chambre d'hôtel. Je n'ai jamais pu m'abandonner à ce qu'on appelle la vie d'intérieur, qui est si souvent le contraire de la vie intérieure. Le bonheur dit bourgeois m'ennuie et m'effraie. Cette inaptitude n'a du reste rien de glorieux. Elle n'a pas peu contribué à alimenter mes mauvais défauts. Je n'envie rien, ce qui est mon droit, mais je ne pense pas toujours aux envies des autres et cela m'ôte de l'imagination, c'est-à-dire de la bonté. Il est vrai que je me suis fait une maxime pour mon usage personnel. Il faut mettre ses principes dans les grandes choses. Aux petites, les miséricordes suffisent. Hélas, on se fait des maximes pour combler les trous de sa propre nature. Chez moi, la miséricorde dont je parle s'appelle plutôt indifférence. Ses effets, on s'en doute, sont moins miraculeux. Mais je veux seulement souligner que la pauvreté ne suppose pas forcément l'envie. Même plus tard, quand une grave maladie m'ôta provisoirement la force de vie qui, en moi, transfigurait tout, malgré les infirmités invisibles et les nouvelles faiblesses que j'y trouvais, je pus connaître la peur et le découragement. Jamais l'amertume. Cette maladie, sans doute, ajoutait d'autres entraves et les plus dures à celles qui étaient déjà les miennes. Elle favorisait finalement cette liberté du cœur, cette légère distance à l'égard des intérêts humains qui m'a toujours préservé du ressentiment. Ce privilège, depuis que je vis à Paris, je sais qu'il est royal, mais j'en ai joui sans limite ni remords. Et jusqu'à présent, du moins, il a éclairé toute ma vie. Artiste, par exemple, j'ai commencé à vivre dans l'admiration, ce qui, dans un sens, est le paradis terrestre. On sait, aujourd'hui, l'usage en France pour débuter dans les lettres et même pour y finir est au contraire de choisir un artiste à railler. De même, mes passions d'homme n'ont jamais été contre. Les êtres que j'ai aimés ont toujours été meilleurs et plus grands que moi. La pauvreté telle que je l'ai vécue ne m'a donc pas enseigné le ressentiment, mais une certaine fidélité au contraire et la ténacité muette. S'il m'est arrivé de l'oublier, moi seul ou mes défauts en sommes responsables et non le monde où je suis né, c'est aussi le souvenir de ces années qui m'a empêché de me trouver jamais satisfait dans l'exercice de mon métier. Ici, je voudrais parler avec autant de simplicité que je le puis, de ce que les écrivains taisent. Généralement, je n'évoque même pas la satisfaction que l'on trouve, paraît-il, devant le livre ou la page réussie. Je ne sais si beaucoup d'artistes la connaissent. Pour moi, je ne crois pas avoir jamais tiré une joie de la relecture d'une page terminée. J'avouerai même, en acceptant d'être pris au mot, que le succès de quelques-uns de mes livres m'a toujours surpris. Bien entendu, on s'y habitue et assez vilainement. Aujourd'hui encore, pourtant, je me sens un apprenti auprès d'écrivains vivants à qui je donne la place de leur vrai mérite, et dont l'un des premiers est celui à qui ses essais furent dédiés il y a déjà 20 ans. L'écrivain a naturellement des joies pour lesquelles il vit et qui suffisent à le combler, mais pour moi, je les rencontre au moment de la conception, à la seconde où le sujet se révèle, où l'articulation de l'œuvre se dessine devant la sensibilité soudain clairvoyante, à ces moments délicieux où l'imagination se confond tout à fait avec l'intelligence. Ces instants passent comme ils sont nés. Reste l'exécution, c'est-à-dire une longue peine. Sur un autre plan, un artiste a aussi des joies de vanité. Le métier d'écrivain, particulièrement dans la société française, est en grande partie un métier de vanité. Je le dis d'ailleurs sans mépris, à peine avec regret. Je ressemble aux autres sur ce point. Qui peut se dire dénué de cette ridicule infirmité? Après tout, dans une société vouée à l'envie et à la dérision, un jour vient toujours où, couverts de brocart, nos écrivains paient durement ces pauvres joies. Mais justement, en 20 années de vie littéraire, mon métier m'a apporté bien peu de joies semblables et de moins en moins à mesure que le temps passait. N'est-ce pas le souvenir des vérités entrevues dans l'envers et l'endroit qui m'a toujours empêché d'être à l'aise dans l'exercice public de mon métier et qui m'a conduit à tant de refus qui ne m'ont pas toujours fait des amis? À ignorer le compliment ou l'hommage, en effet, on laisse croire au complimentaire qu'on le dédaigne, alors qu'on ne doute que de soi. De même, si j'avais montré ce mélange d'âpreté et de complaisance qui se rencontre dans la carrière littéraire, si même j'avais exagéré ma parade comme tant d'autres, j'aurais reçu plus de sympathie, car enfin, j'aurais joué le jeu. Mais qui faire? Ce jeu ne m'amuse pas. L'ambition de Rupembray ou de Julien Sorel me déconcerte souvent par sa naïveté et sa modestie. Celle de Nietzsche, de Tolstoï ou de Melville me bouleverse et en raison même de leur échec. Dans le secret de mon cœur, je ne me sens d'humilité que devant les vies les plus pauvres ou les grandes aventures de l'esprit. Entre les deux se trouve aujourd'hui une société qui fait rire. Parfois, dans ces premières de théâtre, qui sont le seul lieu où je rencontre ce qu'on appelle avec insolence le tout Paris, j'ai l'impression que la salle va disparaître, que ce monde tel qu'il semble n'existe pas. Ce sont les autres qui me paraissent réels, les grandes figures qui crient sur la scène. Pour ne pas fuir alors, il faut se souvenir que chacun de ces spectateurs a aussi un rendez-vous avec lui-même, qu'il le sait et que sans doute il s'y rendra tout à l'heure. Aussitôt le voici de nouveau fraternel. Les solitudes réunissent ce que la société sépare. Sachant cela, comment flatter ce monde ? Briguer ses privilèges dérisoires, consentir à féliciter tous les auteurs de tous les livres, remercier ostensiblement le critique favorable. Pourquoi essayer de séduire l'adversaire? De quelle figure surtout recevoir ces compliments et cette admiration dont la société française, en présence de l'auteur du moins, car lui est parti, use autant que du Pernod et de la presse du cœur? Je n'arrive à rien de tout cela, c'est un fait. Peut-être y a-t-il là beaucoup de ce mauvais orgueil dont je connais en moi l'étendue et les pouvoirs. Mais s'il y avait cela seulement, si ma vanité était seule à jouer, il me semble qu'au contraire, je jouirais du compliment superficiellement au lieu d'y trouver un malaise répété. Non, la vanité que j'ai en commun avec les gens de mon état, je la sens réagir surtout à certaines critiques qui comportent une grande part de vérité. Devant le compliment, ce n'est pas la fierté qui me donne cet air cancre et ingrat que je connais bien, mais en même temps que cette profonde indifférence qui est en moi comme une infirmité de nature, un sentiment singulier qui me vient alors. Ce n'est pas cela. Non, ce n'est pas cela. Et c'est pourquoi la réputation, comme on dit, est parfois si difficile à accepter qu'on trouve une sorte de mauvaise joie à faire qu'il faut ce qu'il faut pour la perdre. Au contraire, relisant l'envers et l'endroit après tant d'années pour cette édition, je sais instinctivement devant certaines pages et malgré les maladresses que c'est cela. Cela, c'est-à-dire cette vieille femme, une mère silencieuse, la pauvreté, la lumière sur les oliviers d'Italie, l'amour solitaire et peuplé, tout ce qui témoigne à mes propres yeux de la vérité. Depuis le temps où ces pages ont été écrites, j'ai vieilli et traversé beaucoup de choses. J'ai appris sur moi-même, connaissant mes limites et presque toutes mes faiblesses. J'ai moins appris sur les êtres parce que ma curiosité va plus à leur destin qu'à leur réaction et que les destins se répètent beaucoup. J'ai appris du moins qu'il existait et que l'égoïsme, s'il ne peut se renier, doit essayer d'être clairvoyant. Jouir de soi est impossible, je le sais, malgré les grands dons qui sont les miens pour cet exercice. Si la solitude existe, ce que j'ignore, on aurait bien le droit à l'occasion d'en rêver comme d'un paradis. J'en rêve, parfois, comme tout le monde. Mes deux anges tranquilles m'en ont toujours interdit l'entrée. L'un montre le visage de l'ami, l'autre la face de l'ennemi. Oui, je sais, tout cela... Et j'ai appris encore, ou à peu près, ce que coûtait l'amour. Mais sur la vie elle-même, je n'en sais pas plus que ce qui est dit avec gaucherie dans l'envers et l'endroit. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre, ai-je écrit, non sans emphase. Dans ces pages, je ne savais pas à l'époque à quel point je disais vrai. Je n'avais pas encore traversé les temps du vrai désespoir. Ces temps sont venus et ils ont pu tout détruire en moi, sauf justement l'appétit désordonné de vivre. Je souffre encore de cette passion à la fois féconde et destructrice qui éclate jusque dans les pages les plus sombres de l'envers et l'endroit. Nous ne vivons vraiment que quelques heures de notre vie, a-t-on dit. Cela est vrai dans un sens, faux dans un autre. Car l'ardeur affamée qu'on sentira dans les essais qui suivent ne m'a jamais quitté. Et pour finir, elle est la vie dans ce qu'elle a de pire et de meilleur. J'ai voulu sans doute rectifier ce qu'elle produisait de pire en moi. Comme tout le monde, j'ai essayé, tant bien que mal, de corriger ma nature par la morale. C'est hélas ce qui m'a coûté le plus cher. Avec de l'énergie, et j'en ai, on arrive parfois à se conduire selon la morale, non à être. Et rêver de morale quand on est un homme de passion, c'est se vouer à l'injustice, dans le temps même où l'on parle de justice. L'homme m'apparaît parfois comme une injustice en marche, je pense à moi. Si j'ai à ce moment l'impression de m'être trompé ou d'avoir menti dans ce que parfois j'écrivais, c'est que je ne sais comment faire connaître honnêtement mon injustice. Sans doute je n'ai jamais dit que j'étais juste. Il m'est seulement arrivé de dire qu'il fallait essayer de l'être et aussi que c'était une peine et un malheur. Mais la différence est-elle si grande? Et peut-il vraiment prêcher la justice, celui qui n'arrive même pas à la faire régner dans sa vie? Si du moins on pouvait vivre selon l'honneur, cette vertu des injustes, mais notre monde tient ce mot pour obscène. Aristocrate fait partie des injures littéraires et philosophiques. Je ne suis pas aristocrate. Ma réponse tient dans ce livre. Voici les miens, mes maîtres, ma lignée. Voici par eux ce qui me réunit à tous. Et cependant, oui, j'ai besoin d'honneur parce que je ne suis pas assez grand pour m'en passer. Qu'importe, je voulais seulement marquer que si j'ai beaucoup marché depuis ce livre, je n'ai pas tellement progressé. Souvent, croyant avancer, je reculais. Mais à la fin, mes fautes, mes ignorances et mes fidélités m'ont toujours ramené sur cet ancien chemin que j'ai commencé d'ouvrir avec l'envers et l'endroit. On voit les traces dans tout ce que j'ai fait ensuite et sur lequel, certains matins d'Alger, par exemple, je marche toujours avec la même légère ivresse. Pourquoi donc, s'il en est ainsi, avoir longtemps refusé de produire ce faible témoignage ? D'abord, parce qu'il y a en moi, il faut le répéter, des résistances artistiques, comme il y a chez d'autres des résistances morales ou religieuses. L'interdiction, l'idée que cela ne se fait pas, qui m'est assez étrangère en tant que fils d'une libre nature, mais présente en tant qu'esclave et esclave admiratif d'une tradition artistique sévère. Peut-être aussi cette méfiance vise-t-elle mon anarchie profonde et par là reste utile. Je connais mon désordre, la violence de certains instincts, l'abandon sans grâce où je peux me jeter pour être édifié. L'œuvre d'art doit se servir d'abord de ces forces obscures de l'âme, mais non sans les canaliser, les entourer de digues pour que leur flot monte aussi bien. Mes digues aujourd'hui encore sont peut-être trop hautes, de là cette raideur parfois. Simplement le jour où l'équilibre s'établira entre ce que je suis et ce que je dis, ce jour-là peut-être, et j'ose à peine l'écrire, je pourrais bâtir l'œuvre dont je rêve. Ce que j'ai voulu dire ici, c'est qu'elle ressemblera à l'envers et l'endroit, d'une façon ou d'une autre, et qu'elle parlera d'une certaine forme d'amour. On comprend alors la deuxième raison que j'ai eue de garder pour moi ces essais de jeunesse. Les secrets qui nous sont les plus chers, nous les livrons trop dans la maladresse et le désordre. Nous les trahissons aussi bien sous un déguisement trop pas prêté. Mieux vaut attendre d'être expert à leur donner une forme, sans cesser de faire entendre leur voix, de savoir unir à dose à peu près égale le naturel et l'art, d'être enfin, car c'est être que de tout pouvoir en même temps, en art, tout vient simultanément où rien ne vient, pas de lumière sans flamme. Stendhal s'écriait un jour « Mais mon âme à moi est un feu qui souffre s'il ne flambe pas ». Ceux qui lui ressemblent sur ce point ne devraient créer que dans cette flambée. Au sommet de la flamme, le cri sort tout droit et crée ces mots qui le répercutent à leur tour. Je parle ici de ce que nous tous, artistes incertains de l'être, mais sûrs de ne pas être autre chose, attendons jour après jour pour consentir enfin à vivre. Pourquoi donc, puisqu'il s'agit de cette attente et probablement vaine, accepter aujourd'hui cette publication? D'abord, parce que des lecteurs ont su trouver l'argument qui m'a convaincu. Et puis, un temps vient toujours dans la vie d'un artiste où il doit faire le point, se rapprocher de son propre centre pour tâcher ensuite de s'y maintenir. C'est ainsi aujourd'hui et je n'ai pas besoin d'en dire plus. Si, malgré tant d'efforts, pour édifier un langage et faire vivre des mythes, je ne parviens pas un jour à réécrire l'envers et l'endroit, je ne serai jamais parvenu à rien. Voilà ma conviction obscure. Rien ne m'empêche en tout cas de rêver que j'y réussirai, d'imaginer que je mettrai encore au centre de cette œuvre l'admirable silence d'une mère et l'effort d'un homme pour retrouver une justice ou un amour qui équilibre ce silence. Dans le songe de la vie, voici l'homme qui trouve ses vérités et qui les perd sur la terre de la mort, pour revenir à travers les guerres, les cris, la folie de justice et d'amour, la douleur enfin vers cette patrie tranquille où la mort même est un silence heureux. Voici encore, oui, rien n'empêche de rêver, à l'heure même de l'exil, puisque du moins je sais cela, de science certaine qu'une œuvre d'homme n'est rien d'autre que ce long cheminement pour retrouver par les détours de l'art les deux ou trois images simples, grandes, sur lesquelles le cœur une première fois s'est ouvert. Voilà pourquoi peut-être après 20 années de travail et de production, je continue de vivre avec l'idée que mon œuvre n'est même pas commencée. Dès l'instant où, à l'occasion de cette réédition, je me suis retourné vers les premières pages que j'ai écrites, c'est cela d'abord que j'ai eu envie de consigner ici. L'ironie. Il y a 2 ans, j'ai connu une vieille femme. Elle souffrait d'une maladie dont elle avait bien cru mourir. Tout son côté droit avait été paralysé. Elle n'avait qu'une moitié d'elle en ce monde quand l'autre lui était déjà étrangère. Petite vieille remuante et bavarde, on l'avait réduite au silence et à l'immobilité. Seule de longues journées illettrées, peu sensibles, sa vie entière se ramenait à Dieu. Elle croyait en lui et la preuve est qu'elle avait un chapelet, un Christ de plomb et en stuc un Saint Joseph portant l'enfant. Elle doutait que sa maladie fût incurable, mais l'affirmait pour qu'on s'intéressât à elle, s'en remettant du reste au Dieu qu'elle aimait si mal. Ce jour-là, quelqu'un s'intéressait à elle. C'était un jeune homme. Il croyait qu'il y avait une vérité et savait par ailleurs que cette femme allait mourir sans s'inquiéter de résoudre cette contradiction. Il avait pris un véritable intérêt à l'ennui de la vieille femme. Cela, elle l'avait bien senti et cet intérêt était une aubaine inespérée pour la malade. Elle lui disait ses peines avec animation. Elle était au bout de son rouleau et il faut bien laisser la place aux jeunes. Si elle s'ennuyait, cela était sûr. On ne lui parlait pas. Elle était dans son coin comme un chien. Il valait mieux en finir, parce qu'elle aimait mieux mourir que d'être à la charge de quelqu'un. Sa voix était devenue querelleuse. C'était une voix de marché, de marchandage. Pourtant, ce jeune homme comprenait. Il était d'avis cependant qu'il valait mieux être à la charge des autres que mourir. Mais cela ne prouvait qu'une chose, que sans doute il n'avait jamais été à la charge de personne. Et précisément, il disait à la vieille femme, parce qu'il avait vu le chapelet, « Il vous reste le bon Dieu. » C'était vrai, mais même à cet égard, on l'ennuyait encore. S'il lui arrivait de rester un long moment en prière, si son regard se perdait dans quelques motifs de la tapisserie, sa fille disait, « La voilà encore qui prie. » « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» disait la malade. « Ça ne me fait rien, mais ça m'énerve à la fin. » Et la vieille se taisait en attachant sur sa fille un long regard chargé de reproches. Le jeune homme écoutait tout cela avec une immense peine inconnue qui le gênait là dans la poitrine. Et la vieille disait encore, elle verra bien quand elle sera vieille, elle aussi en aura besoin. On sentait cette vieille femme libérée de tout, sauf de Dieu, livrée tout entière à ce mal dernier, vertueuse par nécessité, persuadée trop aisément que ce qui lui restait était le seul bien digne d'amour, plongé enfin et sans retour dans la misère de l'homme en Dieu. Mais que l'espoir de vie renaisse et Dieu n'ait pas de force contre les intérêts de l'homme. On s'était mis à table, le jeune homme avait été invité au dîner. La vieille ne mangeait pas parce que les aliments sont lourds le soir. Elle était restée dans un coin derrière le dos de celui qui l'avait écoutée. Et de se sentir observée, celui-ci mangeait mal. Cependant, le dîner avançait. Pour prolonger cette réunion, on décida d'aller au cinéma. On passait justement un film gay. Le jeune homme avait étourdiment accepté, sans penser à l'être qui continuait d'exister dans son dos. Les convives s'étaient levés pour aller se laver les mains avant de sortir. Il n'était pas question, évidemment, que la vieille femme vînt aussi. Quand elle n'aurait pas été impotente, son ignorance l'aurait empêchée de comprendre le film. Elle disait ne pas aimer le cinéma. Au vrai, elle ne comprenait pas. Elle était dans son coin d'ailleurs et prenait un grand intérêt vide au grain de son chapelet. Elle mettait en lui toute sa confiance. Les trois objets qu'elle conservait marquaient pour elle le point matériel où commençait le divin. À partir du chapelet du Christ ou du Saint-Joseph, derrière eux s'ouvrait un grand noir profond où elle plaçait tout son espoir. Tout le monde était prêt. On s'approchait de la vieille femme pour l'embrasser et lui souhaiter un bonsoir. Elle avait déjà compris et serré avec force son chapelet, mais il paraissait bien que ce geste pouvait être autant de désespoir que de ferveur. On l'avait embrassé, il ne restait que le jeune homme. Il avait serré la main de la vieille femme avec affection et se retournait déjà. Mais l'autre voyait partir celui qui s'était intéressé à elle. Elle ne voulait pas être seule. Elle sentait déjà l'horreur de sa solitude, l'insomnie prolongée, le tête-à-tête décevant avec Dieu. Elle avait peur, ne se reposait plus qu'en l'homme et se rattachant au seul être qui lui eût marqué de l'intérêt, ne lâchait pas sa main, la serrait, le remerciant maladroitement pour justifier cette insistance. Le jeune homme était gêné. Déjà, les autres se retournaient pour l'inviter à plus de hâte. Le spectacle commençait à 9h et il valait mieux arriver un peu tôt pour ne pas attendre au guichet. Lui se sentait placé devant le plus affreux malheur qu'il eût encore connu, celui d'une vieille femme infirme qu'on abandonne pour aller au cinéma. Il voulait partir et se dérober, ne voulait pas savoir, essayer de retirer sa main. Une seconde durant, il eut une haine féroce pour cette vieille femme et pensa à la gifler à toute volée. Il put enfin se retirer et partir, pendant que la malade, à demi soulevée dans son fauteuil, voyait avec horreur s'évanouir la seule certitude dans laquelle elle eût pu reposer. Rien ne la protégeait maintenant. Et livrée tout entière à la pensée de sa mort, elle ne savait pas exactement ce qui l'effrayait, mais sentait qu'elle ne voulait pas être seule. Dieu ne lui servait de rien qu'à l'ôter aux hommes et à la rendre seule. Elle ne voulait pas quitter les hommes, et pour cela, elle se mit à pleurer. Les autres étaient déjà dans la rue. Un tenace remords travaillait le jeune homme. Il levait les yeux vers la fenêtre éclairée, gros œil mort dans la maison silencieuse. L'œil se ferma. La fille de la vieille femme, malade, dit au jeune homme, « Elle éteint toujours la lumière quand elle est seule. Elle aime rester dans le noir. » Dans le noir. Ce vieillard triomphait, rapprochait les sourcils, secouait un index sentencieux. Il disait, « Moi, mon père me donnait 5 francs sur ma semaine pour m'amuser jusqu'au samedi d'après. Eh bien, je trouvais encore le moyen de mettre des sous de côté. D'abord, pour aller voir ma fiancée, je faisais en pleine campagne 4 kilomètres pour aller et 4 kilomètres pour revenir. Allez, allez, c'est moi qui vous le dis. La jeunesse d'aujourd'hui ne sait plus s'amuser. » Ils étaient autour d'une table ronde, 3 jeunes, lui vieux. Il comptait ses pauvres aventures, des niaiseries mises très haut, des lassitudes qu'il célébrait comme des victoires. Il ne ménageait pas de silence dans son récit et, pressé de tout dire avant d'être quitté, il retenait de son passé ce qu'il pensait propre à toucher ses auditeurs. Se faire écouter était son seul vice. Il se refusait à voir l'ironie des regards et la brusquerie moqueuse dont on l'accablait. Il était pour eux le vieillard dont on sait que tout allait bien de son temps quand il croyait être l'aïeul respecté dont l'expérience fait poids. Les jeunes ne savent pas que l'expérience est une défaite et qu'il faut tout perdre pour savoir un peu. Lui avait souffert, il n'en disait rien. Ça fait mieux de paraître heureux. Et puis, s'il avait tort en cela, il se serait trompé plus lourdement en voulant, au contraire, toucher par ses malheurs. Qu'importe les souffrances d'un vieil homme quand la vie vous occupe tout entier. Il parlait, s'égarait avec délices dans la grisaille de sa voix assourdie, mais cela ne pouvait durer. Son plaisir commandait une fin et l'attention de ses auditeurs déclinait. Il n'était même plus amusant, il était vieux. Et les jeunes aiment le billard et les cartes qui ne ressemblent pas au travail imbécile de chaque jour. Il fut bientôt seul, malgré ses efforts et ses mensonges, pour rendre son récit plus attrayant. Sans égard, les jeunes étaient partis, de nouveau seuls, n'être plus écoutés. C'est cela qui est terrible lorsqu'on est vieux. On le condamnait au silence et à la solitude. On lui signifiait qu'il allait bientôt mourir. Et un vieil homme qui va mourir est inutile, même gênant et insidieux. Qu'il s'en aille, à défaut qu'il se taise, c'est le moindre des égards. Et lui souffre parce qu'il ne peut se taire sans penser qu'il est vieux. Il se leva pourtant et partit en souriant à tout le monde autour de lui. Mais il ne rencontra que des visages indifférents ou secoués d'une gaieté à laquelle il n'avait pas le droit de participer. Un homme riait. « Elle est vieille, je dis. Elle est vieille, je dis pas, mais des fois, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. » Un autre déjà plus grave. « Nous autres, on n'est pas riches, mais on mange bien. » Tu vois, mon petit-fils, plus que son père, il mange. Son père, il lui faut une livre de pain. Lui, un kilo, il lui faut. Et vas-y le saucisson, et vas-y le camembert. Des fois qu'il a fini, il dit « et il mange encore. » Le vieux s'éloigna. Et de son pas lent, un petit pas d'âne au labeur, il parcourut les longs trottoirs chargés d'hommes. Il se sentait mal et ne voulait pas rentrer. D'habitude, il aimait assez retrouver la table et la lampe à pétrole, les assiettes où machinalement ses doigts trouvaient leur place. Il aimait encore le souper silencieux, la vieille assise devant lui, les bouchées longuement mâchées, le cerveau vide, les yeux fixés et morts. Ce soir, il rentrerait plus tard. Le souper servi et froid. La vieille serait couchée sans inquiétude puisqu'elle connaissait ses retards imprévus. Elle disait « Il a la lune !» et tout était dit. Il allait maintenant dans le doux entêtement de son pas. Il était seul et vieux. À la fin d'une vie, la vieillesse revient en nausée. Tout aboutit à ne plus être écouté. Il marche, tourne au coin d'une rue, bute et presque tombe. Je l'ai vu, c'est ridicule, mais qu'y faire? Malgré tout, il aime mieux la rue plutôt que ces heures où chez lui, la fièvre lui masque la vieille et l'isole dans sa chambre. Alors, quelquefois, la porte s'ouvre lentement et reste demi-béante. Pendant un instant, un homme entre. Il est habillé de clair. Il s'assit en face du vieillard et se tait pendant de longues minutes. Il est immobile, comme la porte tout à l'heure béante. De temps en temps, il passe une main sur ses cheveux et soupire doucement. Quand il a longtemps regardé le vieil homme du même regard lourd de tristesse, il s'en va silencieusement. Derrière lui, un bruit sec tombe du loquet et le vieux reste là, horrifié, avec dans le ventre sa peur acide et douloureuse. Tandis que dans la rue, il n'est pas seul, si peu de monde qu'on rencontre. Sa fièvre chante, son petit pas se presse. Demain, tout changera. Demain, soudain, il découvre ceci, que demain sera semblable et après-demain, tous les autres jours. Et cette irrémédiable découverte l'écrase. Ce sont de pareilles idées qui vous font mourir. Pour ne pouvoir les supporter, on se tue. Ou si l'on est jeune, on en fait des phrases. Vieux fou, ivre, on ne sait. Sa fin sera une digne fin, sanglotante, admirable. Il mourra en beauté, je veux dire en souffrant. Ça lui fera une consolation. Et d'ailleurs, où aller, il est vieux, pour jamais. Les hommes bâtissent sur la vieillesse à venir, à cette vieillesse assaillie d'irrémédiable. Ils veulent donner l'oisiveté qui les laisse sans défense. Ils veulent être contremaîtres pour se retirer dans une petite villa. Mais une fois enfoncés dans l'âge, ils savent bien que c'est faux. Ils ont besoin des autres hommes pour se protéger. Et pour lui, il fallait qu'on l'écoutât, qu'il crût à sa vie. Maintenant, les rues étaient plus noires et moins peuplées. Des voix passaient encore dans l'étrange apaisement du soir. Elles devenaient plus solennelles. Derrière les collines qui encerclaient la ville, il y avait encore des lueurs de jour, une fumée imposante. On ne sait d'où venue, apparue derrière les crêtes boisées lentes. Elle s'éleva et s'étagea comme un sapin. Le vieux ferma les yeux. Devant la vie qui emportait les grondements de la ville et le sourire nié, indifférent du ciel, il était seul, désemparé, nu, mort déjà. Et est-il nécessaire de décrire le revers de cette médaille? On se doute que dans une pièce sale et obscure, la vieille servait la table, que le dîner prêt, elle s'assit, regarda l'heure, attendit encore et se mit à manger avec appétit. Elle pensait, il a la lune, tout est dit. Il vivait à 5. La grand-mère, son fils cadet, sa fille aînée et les deux enfants de cette dernière. Le fils était presque muet. La fille infirme pensait difficilement et des deux enfants, l'un travaillait déjà dans une compagnie d'assurance quand le plus jeune poursuivait ses études. À 70 ans, la grand-mère dominait encore tout le monde. Au-dessus de son lit, on pouvait voir d'elle un portrait où, plus jeune de 5 ans, toute droite dans une robe noire fermée au cou par un médaillon, sans une ride, avec d'immenses yeux clairs et froids, elle avait ce port de reine qu'elle ne résigna qu'avec l'âge et qu'elle tentait parfois de retrouver dans la rue. C'est à ses yeux clairs que son petit-fils devait un souvenir dont il rougissait encore. La vieille femme attendait qu'il y eût des visites pour lui demander en le fixant sévèrement « Qui préfères-tu, ta mère ou ta grand-mère ?» Le lieu se corseta quand la fille elle-même était présente, car dans tous les cas, l'enfant répondait « Ma grand-mère », avec dans son cœur un grand élan d'amour pour cette mère qui se taisait toujours. Ou alors, lorsque les visiteurs s'étonnaient de cette préférence, la mère disait « C'est que c'est elle qui l'a élevée. » C'est aussi que la vieille femme croyait que l'amour est une chose qu'on exige. Elle tirait de sa conscience de bonne mère de famille une sorte de rigidité et d'intolérance. Elle n'avait jamais trompé son mari et lui avait fait 9 enfants. Après sa mort, elle avait élevé sa petite famille avec énergie. Partie de leur ferme de banlieue, ils avaient échoué dans un vieux quartier pauvre qu'ils habitaient depuis longtemps. Et certes, cette femme ne manquait pas de qualité, mais pour ses petits-fils, qui étaient à l'âge des jugements absolus, elle n'était qu'une comédienne. Ils tenaient ainsi d'un de leurs oncles une histoire significative. Ce dernier, venant rendre visite à sa belle-mère, l'avait aperçue inactive à la fenêtre. Mais elle l'avait reçu un chiffon à la main et s'était excusée de continuer son travail à cause du peu de temps que lui laissaient les soins du ménage. Et il faut bien avouer que tout était ainsi. C'est avec beaucoup de facilité qu'elle s'évanouissait au sortir d'une discussion de famille. Elle souffrait aussi de vomissements pénibles dus à une affection du foie, mais elle n'apportait aucune discrétion dans l'exercice de sa maladie. Loin de s'isoler, elle vomissait avec fracas dans le bidon d'ordures de la cuisine et revenue parmi les siens, pâle, les yeux pleins de larmes, d'efforts. Si on la suppliait de se coucher, elle rappelait la cuisine qu'elle avait à faire et la place qu'elle tenait dans la direction de la maison. « C'est moi qui fais tout ici. Et encore, qu'est-ce que vous deviendrez si je disparaissais ?» Les enfants s'habituèrent à ne pas tenir compte de ses vomissements et de ses attaques, comme elle disait, ni de ses plaintes. Elle s'alita un jour et réclama le médecin. On le fit venir pour lui complaire. Le premier jour, il décela un simple malaise. Le deuxième, un cancer du foie. Et le troisième, un ictère grave. Mais le plus jeune des deux enfants s'entêtait à ne voir là qu'une nouvelle comédie, une simulation plus raffinée. Il n'était pas inquiet, cette femme l'avait trop opprimé pour que ses premières vues puissent être pessimistes. Et il y a une sorte de courage désespéré dans la lucidité et le refus d'aimer. Mais à jouer la maladie, on peut effectivement la ressentir. La grand-mère poussa la simulation jusqu'à la mort. Le dernier jour, assistée de ses enfants, elle se délivrait de ses fermentations d'intestin. Avec simplicité, elle s'adressa à son petit-fils. « Tu vois, dit-elle, je pète comme un petit cochon. » Elle mourut une heure après. Son petit-fils, il le sentait bien maintenant, n'avait rien compris à la chose. Il ne pouvait se délivrer de l'idée que c'était jouer devant lui la dernière et la plus monstrueuse des simulations de cette femme. Et s'il s'interrogeait sur la peine qu'il ressentait et n'en décelait aucune, le jour de l'enterrement seulement, à cause de l'explosion générale des larmes, il pleura, mais avec la crainte de ne pas être sincère et de mentir devant la mort. C'était par une belle journée d'hiver, traversée de rayons, dans le bleu du ciel. On devinait le froid tout pailleté de jaune. Le cimetière dominait la ville et on pouvait voir le beau soleil transparent tomber sur la baie tremblante de lumière comme une lèvre humide. Tout ça ne se concilie pas. La belle vérité. Une femme qu'on abandonne pour aller au cinéma. Un vieil homme qu'on n'écoute plus. Une mort qui ne rachète rien et puis de l'autre côté toute la lumière du monde. Qu'est-ce que ça fait si on accepte tout? Il s'agit de trois destins semblables et pourtant différents. La mort pour tous, mais chacun sa mort. Après tout, le soleil nous chauffe quand même les os. Amour de vivre. La nuit à Palma, la vie reflue lentement vers le quartier des cafés chantants derrière le marché. Des rues noires et silencieuses jusqu'au moment où l'on arrive devant des portes persiennes où filtrent la lumière et la musique. J'ai passé près d'une nuit dans l'un de ces cafés. C'était une petite salle très basse, rectangulaire, peinte en vert, décorée de guirlandes roses. Le plafond boisé était couvert de minuscules ampoules rouges. Dans ce petit espace, c'était miraculeusement casé un orchestre, un bar aux bouteilles multicolores, et le public serré à mourir, épaule contre épaule, des hommes seulement. Au centre, 2 mètres carrés d'espace libre, des verres et des bouteilles en fusée, envoyées par le garçon aux 4 coins de la salle. Pas un être ici n'était conscient. Tous hurlaient, une sorte d'officier de marine méructé dans la figure des politesses chargées d'alcool. À ma table, un nain sans âge me racontait sa vie, mais j'étais trop tendu pour l'écouter. L'orchestre jouait sans arrêt des mélodies dont on ne saisissait que le rythme, parce que tous les pieds en donnaient la mesure. Parfois, la porte s'ouvrait au milieu des hurlements, on encastrait un nouvel arrivant entre 2 chaises. Un coup de cymbale soudain. Et une femme sauta brusquement dans le cercle exigu. Au milieu du cabaret. 21 ans, me dit l'officier. Je fus stupéfait. Un visage de jeune fille, mais sculpté dans une montagne de chair. Cette femme pouvait avoir 1m80, énorme. Elle devait peser 300 livres, les mains sur les hanches, vêtue d'un filet jaune, dont les mailles faisaient gonfler un damier de chair blanche. Elle souriait, et chacun des coins de sa bouche renvoyait vers l'oreille une série de petites ondulations de chair. Dans la salle, l'excitation n'avait plus de bornes. On sentait que cette fille était connue, aimée, attendue. Elle souriait toujours. Elle promena son regard autour du public et, toujours silencieuse et souriante, fit onduler son ventre avant. La salle hurla puis réclama une chanson qui paraissait connue. C'était un chant andalou, nasillard, rythmé sourdement par la batterie. Toutes les 3 mesures, elle chantait et à chaque coup mimait l'amour de tout son corps, de ce mouvement monotone et passionné. De vraies vagues de chair naissaient sur ses hanches et venaient mourir sur ses épaules. La salle était comme écrasée, mais au refrain, la fille tournant sur elle-même, tenant ses seins à pleine main, ouvrant sa bouche rouge et mouillée, reprit la mélodie en chœur avec la salle jusqu'à ce que tout le monde soit levée dans le tumulte. Elle campait au centre, gluante de sueur, dépeignée, dressée sa taille massive, gonflée dans son filet jaune, comme une déesse immonde sortant de l'eau, le front bête et bas, les yeux creux. Elle vivait seulement par un petit tressaillement du genou, comme en ont les chevaux après la course. Au milieu de la joie trépignante qui l'entourait, elle était comme l'image ignoble et exaltante de la vie, avec le désespoir de ses yeux vides et la sueur épaisse de son ventre. Sans les cafés et les journaux, il serait difficile de voyager. Une feuille imprimée dans notre langue, un lieu où le soir nous tentons de coudoyer des hommes, nous permet de mimer dans un geste familier l'homme qui nous, l'homme que nous étions chez nous et qui à distance nous paraît si étranger. Car ce qui fait le prix du voyage, c'est la peur. Il brise en nous une sorte de décor intérieur. Il n'est plus possible de tricher, de se masquer derrière des heures de bureau et de chantier, ces heures contre lesquelles nous protestons si fort et qui nous défendent si sûrement contre la souffrance d'être seul. C'est ainsi que j'ai toujours envie d'écrire des romans où mes héros diraient « Qu'est-ce que je deviendrais sans mes heures de bureau ?» Ou encore « Ma femme est morte, mais par bonheur j'ai un gros paquet d'expéditions à rédiger pour demain. » Le voyage nous ôte ce refuge. Loin des nôtres, de notre langue arrachée à tous nos appuis, privés de nos masques, on ne connaît pas le tarif des tramways et tout est comme ça. Nous sommes toujours entiers à la surface de nous-mêmes, mais aussi à nous sentir l'âme malade. Nous rendons à chaque être, à chaque objet aussi, sa valeur de miracle. Une femme qui danse sans penser, une bouteille sur une table, aperçue derrière un rideau, chaque image devient un symbole. La vie semble s'y refléter tout entière dans la mesure où notre vie à ce moment s'y résume. Sensible à tous les dons, comment dire, les ivresses contradictoires que nous pouvons goûter, jusqu'à celle de la lucidité. Et jamais peut-être un pays, sinon la Méditerranée, ne m'a porté à la fois si loin et si près de moi-même. Sans doute, c'est de là que venait mon émotion du Café Palma. Mais à midi, au contraire, dans le quartier désert de la cathédrale, parmi les vieux palais aux cours fraîches, dans les rues aux odeurs d'ombre, c'est l'idée d'une certaine lenteur qui me frappait. Personne dans ces rues aux miradors de vieilles femmes figées et marchant le long des maisons, m'arrêtant dans les cours pleines de plantes vertes. Et de piliers ronds et gris, je me fondais dans cette odeur de silence. Je perdais mes limites. N'était plus que le son de mes pas, ou ce vol d'oiseaux dont j'apercevais l'ombre. Sur le haut des murs encore ensoleillés, je passais aussi de longues heures dans le petit cloître gothique de San Francisco. Sa fine et précieuse colonnade luisait de ce beau jaune doré qu'ont les vieux monuments en Espagne. Dans la cour, les lauriers roses et faux poivriers, un puits de fer forgé d'où pendait une longue cuillère de métal rouillée. Les passants y buvaient parfois, je me souviens encore du bruit clair qu'elle faisait en retombant sur la pierre du puits. Pourtant, ce n'était pas la douceur de vivre que ce cloître m'enseignait dans les battements secs de ces vols de pigeons. Le silence soudain blotti au milieu du jardin dans le grincement isolé de sa chaîne de puits. Je retrouvais une saveur nouvelle et pourtant familière. J'étais lucide et souriant devant ce jeu unique des apparences cristal où souriait le visage du monde. Il me semblait qu'un geste l'eût fêlé. Quelque chose allait se défaire, le vol des pigeons mourir et chacun de tomber lentement sur ses ailes déployées. Seul mon silence et mon immobilité rendaient plausible ce qui ressemblait si fort à une illusion. J'entrais dans le jeu sans être dupe. Je me prêtais aux apparences. Un beau soleil doré chauffait doucement les pierres jaunes du cloître. Une femme puisait de l'eau au puits dans une heure, une minute, une seconde. Maintenant, peut-être, tout pouvait crouler. Et pourtant, le miracle se poursuivait. Le monde durait, pudique, ironique et discret, comme certaines formes douces retenues de l'amitié des femmes. Un équilibre se poursuivait, coloré pourtant par toute l'appréhension de sa propre fin. Là était tout mon amour de vivre, une passion silencieuse pour ce qui allait peut-être m'échapper, une amertume sous une flamme. Chaque jour, je quittais ce cloître comme enlevé à moi-même, inscrit pour un court instant dans la durée du monde. Et je sais bien pourquoi je pensais alors aux yeux sans regard des Apollons doriques ou aux personnages brûlants et figés de Giotto. C'est qu'à ce moment, je comprenais vraiment ce que pouvait m'apporter de semblables pays. J'admire qu'on puisse trouver au bord de la Méditerranée des certitudes et des règles de vie, qu'on y satisfasse sa raison et qu'on y justifie un optimisme et un sens social. Car enfin, ce qui me frappait alors, ce n'était pas un monde fait de mesures, fait à la mesure de l'homme, mais qui se refermait sur l'homme. Non, si le langage de ces pays s'accordait à ce qui résonnait profondément en moi, ce n'est pas parce qu'il répondait à mes questions, mais parce qu'il les rendait inutiles. Ce n'étaient pas des actions de grâce qui pouvaient me monter aux lèvres, mais ce nada qui n'a pu naître que devant des paysages écrasés de soleil. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. À Ibiza, j'allais tous les jours m'asseoir dans les cafés qui jalonnent le port. Vers 5 heures, les jeunes gens du pays se promènent sur deux rangs, tout le long de la jetée. Là se font les mariages et la vie tout entière. On ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une certaine grandeur à commencer ainsi sa vie devant le monde. Je m'asseyais encore, tout chancelant, du soleil de la journée, plein d'églises blanches et de murs crayeux, de campagnes sèches et d'oliviers hirsutes. Je buvais un orgeat douceâtre, je regardais la courbe des collines qui me faisaient face. Elles descendaient doucement vers la mer. Le soir devenait vert sur la plus grande des collines. La dernière brise faisait tourner les ailes d'un moulin et, par un miracle naturel, tout le monde baissait la voix. De sorte qu'il n'y avait plus que le ciel et des mots chantants qui montaient vers lui, mais qu'on percevait comme s'il venait de très loin. Dans ce court instant de crépuscule, régnait quelque chose de fugace et de mélancolique, qui n'était pas sensible à un homme seulement, mais à un peuple tout entier. Pour moi, j'avais envie d'aimer comme on a envie de pleurer. Il me semblait que chaque heure de mon sommeil serait désormais volée à la vie, c'est-à-dire au temps du désir sans objet. Comme dans ces heures vibrantes du cabaret de Palma et du cloître de San Francisco, j'étais immobile et tendu, sans force, contre cet immense élan qui voulait mettre le monde entre mes mains. Je sais bien que j'ai tort, qu'il y a des limites à se donner. À cette condition, on crée. Il n'y a pas de limite pour aimer, et que m'importe le mal, étreindre si je peux, que m'importe de mal étreindre si je peux tout embrasser. Il y a des femmes à Gênes dont j'ai aimé le sourire tout un matin. Je ne les reverrai plus et sans doute rien n'est plus simple, mais les mots ne couvriront pas la flamme de mon regret. Petit puits de cloître de San Francisco, j'y regardais passer des vols de pigeons et j'en oubliais ma soif. Mais un moment venait toujours où ma soif renaissait.
C'était L'envers et l'endroit de Albert Camus. La préface écrite en 1958 et puis les trois textes dits par Abdel Malik écrits en 1935 et 1936. Albert Camus avait 22 ans. Lecture par Abdel Malik accompagné du bassiste Iso Diop. Une lecture enregistrée en public au Théâtre de la Ville, en direct sur France Culture dans le cadre de la première édition du Estival Albert Camus, coproduit par les rencontres méditerranéennes Albert Camus et France Culture, en partenariat avec le Théâtre de la Ville. L'envers et l'endroit est publié aux éditions Gallimard. Équipe technique Bruno Mourlan, Mathieu Leroux, assistante Sophie Pierre, réalisation Christophe Fauquet. Un grand merci aux équipes techniques et aux équipes d'accueil du Théâtre de la Ville. Un grand merci au public qui est là aujourd'hui. Je vous retrouve dans très très peu de temps, à 20h ce soir, pour la lecture du premier roman d'Albert Camus et des carnets de textes aussi de René Char et de témoignages d'habitants de Lourmarin. Dans quelques instants, dans une poignée de secondes, il va être 18h et ce sera l'heure du journal. Bonne soirée, ici au Théâtre de la Ville et sur France Culture.